Bonjour et bienvenue dans Catharsis, le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Je suis Rémi et je vous présente nos trois chroniqueurs, donc Agathe,
Salut.
Chris
Bouh.
Et Stan.
Bonjour, mais je suis loin du micro.
Très bien. Donc aujourd'hui un podcast qu'on a enregistré 40 fois, donc c'est le podcast sur la peur. Et nous allons avoir trois films, donc Stan va nous présenter le film Ring, Agathe, ce sera le saleur de la peur, et on
le
commence...
Le convoi de la peur.
Le convoi de la peur.
Sorcereur.
Et on commence tout de suite avec Chris, qui nous présente Conjuring, un film de James Wan, qui a aussi réalisé Saw et Insidious. Et c'est un film d'horreur dans la lignée de Amityville ou L'Exorciste, par exemple. Chris, c'est à toi.
Eh bien, coucou. The Conjuring est donc un film de 2013. Il met en scène une des affaires du couple Warren, un couple qui a vraiment existé aux États-Unis. Donc, ils sont des monologues et c'est un couple qui a eu pas mal d'affaires et qui ont même été médiatisés pendant un certain temps, pendant pas mal de temps.
En fait, ils sont toujours vivants.
Vous savez ce que je veux dire? Nous entendons très bien. Donc, le couple existait vraiment. Tout d'abord, c'est un film dont j'apprécie beaucoup la présentation des personnages car elle s'est faite de manière plutôt bienveillante pour le spectateur. Par cela, je veux dire qu'on ne nous oblige pas à ingurgiter une tonne d'informations utiles à la compréhension. Et le développement des persos se fait limite jusqu'au second tiers à peu près. Donc, pour résumer, dans les années 70, les Ghostbusters donnent des conférences sur leur domaine de compétences, ou nous donnent des infos sur de précédentes affaires et certaines de leurs conséquences. Le couple a une fille avec une nourrice attitrée, car ils sont souvent sur des affaires, et il est cependant montré que les parents ne négligent pas leur fille pour autant. Ce que généralement, on a toujours le délire de « oui, l'enfant abandonné, les parents trop occupés par leur boulot ». Là, pas du tout. Vraiment une bienveillance, la famille limite modèle, qui s'inquiète les uns pour les autres, qui écoute les besoins des uns des autres. C'est la famille idéale, lui.
C'est beau.
Ouais, limite. Bon, les autres protagonistes sont la sympathique famille Perron, composée de maman, papa et de leurs cinq filles. Une famille très productive, je ne dirais pas si je veux le dire. Une famille catholique américaine, cinq filles. Et bon, toujours est-il, ils viennent de faire l'acquisition d'une charmante maison à fort potentiel de foutage de chocottes, parce que lorsque par hasard ils découvrent que dans le placard à balai était dissimulé un accès vers une cave, eh bien c'est un bon bordel, parce que ça fait limite La Cabane dans les Bois, si vous voyez de quoi je parle. Un très bon film de Josh Whedon, La Cabane dans les Bois.
De toute façon, avec Cabane dans les Bois, en soi, c'est un truc qui est tout le temps répété dans les films d'horreur.
Ouais,
c'est la grand-mère à moustache pour la chanson française.
Oula.
Ah, La Cabane en fond du jardin.
Ouais, Francis Cabrel, quoi.
Mais... bah, c'est un film que je vous conseille, La Cabane dans les Bois, parce
fond
que
bois,
c'est très étonnant. Très sympa. Josh Whedon.
C'est vrai.
Bon, toujours est-il que la famille se retrouve confrontée à des manifestations de plus en plus violentes, mais beaucoup plus intéressantes que celles qu'on peut voir, par exemple, dans Paranormal Activity. Enfin, c'est mon propre
par
avis.
Exemple.
Par exemple. Fantôme de gilet jaune, quoi.
Manifestation violente.
Ah oui, oui, oui.
Manifestation violente, gilet jaune, oui. On applaudit.
Bon, toujours est-il que bah, je vais vous décrire une de ces nuits qui est justement l'un des paroxysmes de l'angoisse, enfin, de la peur dans ce film, pour moi en tout cas. Donc le build-up, il se passe pendant une nuit, la mère de famille qui entend quelqu'un marcher dans la maison pense que c'est l'une de ses filles qui se balade bien trop tard pour son goût, et donc elle fait un appel. Elle dit « Oui, fille, elle va te coucher, marche chouette, c'est pas l'heure de se bouger, peu importe. » Mais à ce moment-là, elle se rend compte que toutes les photos vont commencer à bouger dans l'escalier, et là, pour ce moment, on commence à paniquer, mais bizarrement, de façon un peu détachée. Les photos tombent, et faisant un bon boucan, et là, je vais mettre l'accent sur le fait que ce boucan-là ne réveille en aucun cas les filles. Je ne sais pas si c'est un truc fait exprès, comme quoi la manifestation, elle n'agit que sur la mère de famille, ou c'est une petite légèreté du scénario, peu importe, mais en tout cas, le boucan est vraiment assourdissant et...
Je rajouterai un jumpscare au montage.
Bah, même pas. Donc, maman pas très sereine, mais avec des blocs de la taille du Texas, sans pour voir l'ampleur des dégâts et voir ce qui aurait pu provoquer ça. Et là, toujours de façon sereine et très organisée, sans paniquer, elle va dans chaque pièce découvrir un peu ce qui se passe, enfin voir ce qui se passe. Lumière allumée, pas lumière allumée, toute chose qui a bougé. Elle passe dans les couloirs, toutes les portes sont fermées. Tout d'un coup, elle entend un bruit qui le rentre vers la cuisine. Puis un grincement de porte se fait distinctement entendre derrière elle. Bon, là, généralement, tout le monde devrait avoir les chocottes. Là, toujours avec une certaine sérénité, ben, elle se retourne et elle découvre que la cave est ouverte. Elle va devant la porte, elle allume la lumière pour jeter un coup d'œil en contrebas, décide que les conneries ont assez duré et elle se dit qu'elle va prévenir la personne qui aurait normalement pris ses aises dans la maison, parce qu'elle pense toujours que c'est une personne. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que la porte va se fermer derrière elle, donc là, elle commence à paniquer, elle se tourne pour quitter le bord de la porte, mais malheureusement, comme je dis, la porte claque sur elle. Donc là, elle est complètement à garde, sans voix, avec un visage exprimant l'effroi et un effondrement de toute pensée cartésienne. Elle balaye lentement la cave de son contenu du regard. La tension monte jusqu'au moment où une balle est projetée du coin ténébreux vers le centre illuminé de la pièce. Et là, il n'y a aucun jumpscare, il y a juste le bruit des éléments de la pièce. Donc la balle est lancée, mais il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'artifice, juste le silence de cette balle qui retentit de façon assourdissante dans la cave. Et cette femme, qui normalement est censée être seule, découvre que malheureusement il y a quelque chose qui cloche et qui est vraiment pas naturel du tout. Donc là, elle crie, elle remonte l'escalier, elle tambourine sur la porte appelant au secours, mais malheureusement personne n'entend. Et ça va même jusqu'à un certain sadisme, puisque un rire léger se fait entendre, un rire enfantin. Elle tâtonne, la lumière s'est éteinte. Elle trouve des allumettes qui étaient dans sa poche, elle en allume une. Et la tension commence à monter, rien ne se passe, le silence, l'allumette s'éteint, elle en allume une deuxième, et là tout d'un coup apparaît de façon très rapide et sans aucun jumpscare encore une fois, des mains qui claquent près de son oreille, et là, panique totale.
On dirait vraiment que tu es en train de raconter une histoire d'horreur au coin du feu, tu sais.
Les marshmallows sont à côté. Et c'est un des moments qui est le plus prenant, comme je dis, je le répète souvent parce qu'il n'y a pas de jumpscare. Et c'est l'une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce film-là, c'est que les artifices, il n'y a pas d'abus d'artifice pour nous faire peur. Tout est dans l'ambiance, tout est dans la mise en scène. Ils n'ont pas du tout peur de nous laisser avec des silences. Comme je dis, à un moment, la femme de famille, elle est dans l'escalier, recroquevillée sur elle-même. Elle est submergée par les ténèbres et elle a juste une allumette pour se repérer. Malheureusement, l'allumette, c'est une allumette, hein, donc elle voit qu'à un ou deux mètres d'elle, et tout le reste n'est que ténèbres. Elle est en panique totale et il y a un silence, mis à part le crépitement de l'allumette. Pas d'artifice, vraiment, on te laisse monter on te laisse monter la pression de façon très...
La tension.
Pression.
Ouais, tension. Pression, ouais.
Pression.
Ça monte, quoi.
Ça monte. Donc voilà. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour la mise en scène et pour le fait qu'ils ne prennent pas pour des cons avec des jumpscares là, toutes les deux minutes.
En fait, ouais, c'est pas dans la facilité, quoi. Il y a vraiment une mise en scène
Oui.
Voilà, qui en jette pas plein la vue, quoi.
Donc je fais plutôt court, mais c'est pas vraiment que j'ai pas envie de gâcher le film, mais après c'est un film d'horreur, hein. Ça se passe bien, ça se passe mal, peu importe. Mais tout est dans l'ambiance. Le fait de spoiler l'histoire n'a aucun intérêt. Mm-hmm. C'est vraiment un film qu'il faut voir pour l'ambiance, parce que c'est ce qui est intéressant dans ce film.
Bah, c'est généralement les films d'horreur, c'est ça, c'est l'ambiance qui est intéressante.
Oui, sauf quand c'est mal fait.
Oui, non, mais bien sûr. Enfin, de toute façon, voilà. Moi, de manière générale, je regarde très peu de films d'horreur, mais oui, je préfère les films qui, ouais, comme tu dis, qui prennent pas pour un con le spectateur. Parce que vraiment, moi, ce que je déteste le plus, c'est quand t'as un truc qui te saute à la figure comme ça.
Ouais. C'est, ouais, au bout d'un moment, c'est épuisant. Je sais plus quel film j'avais vu, et le truc, t'avais un truc toutes les deux minutes comme ça, c'est épuisant. Mm-hmm. Et ça te sort du film.
Yes.
Voilà.
Moi, j'avais vu, enfin, je l'ai pas vu celui-là. J'avais vu Insidious et, bah, en fait, je retrouve les qualités que tu décris de Conjuring, bah, j'y retrouve dans Insidious. Hein, c'est
le même acteur principal d'ailleurs. Je sais pas si c'est le même réalisateur. Il me semble que si aussi, parce que le mec il fait.
James Wan, c'est le réalisateur de Saw et Insidious.
Oui. Voilà.
Insidious.
Il a bien tourné avec l'acteur principal. Non, malheureusement, je me rappelle pas.
Patrick
du nom.
Wilson.
Bah voilà.
Et je trouve que ce que tu décris, c'est ce qui participe à la mise, l'augmentation de l'attention, ouais. C'est vraiment une femme, une mère de famille qui a 5 filles, qui est censée ne pas avoir peur et qui finalement petit à petit perd son assurance, perd son sang-froid.
Au bout d'un certain temps, parce que franchement, il y a des moments où moi j'aurais pété un cap depuis longtemps et j'aurais crié au surnaturel depuis assez longtemps. Mais elle, jusqu'à ce qu'elle fasse à enfermer dans la cave. Elle croit toujours qu'il y a une personne physique dans la maison.
C'est drôle. Mais il y a aussi la mise en scène.
Elle est très cartésienne, c'est pour ça que je dis ça tout à l'heure.
Le côté plan séquence, caméra à l'épaule, etc., ça participe aussi à cette ambiance. Oui. T'es immergé
dans
le réel.
Exactement ça.
Et d'ailleurs, pour parler du réalisme du film, même dans le tournage du film, il y a eu pas mal d'événements qui sont arrivés, qui sont assez flippants. Donc pour vous en citer quelques-uns, l'interprète de Lorraine, donc, a retrouvé 5 marques de griffes d'origine inexplicable sur son écran d'ordinateur alors qu'elle s'apprêtait à lire le scénario de Conjuring. Les acteurs et l'équipe technique du film ont dû un soir être évacués de leur hôtel à cause d'un mystérieux incendie. Donc voilà, il y avait pas mal d'affaires comme ça qui ont entouré le tournage du film, qui participent un peu à la mythologie.
Quoi. Est-ce que sur ces affaires-là, est-ce que t'en as pas qui sont montées de toutes pièces?
C'est possible.
Par les équipes pour faire du... Comme pour l'Exorciste, par exemple, aussi, il y avait eu pas mal une sorte de mytho qui s'installait autour de la réalisation du film. Mm-hmm. J'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait pas mal de...
Ah ouais,
de choses par. Possible, genre, oui, cet acteur-là est mort, mais il est mort de vieillesse. Donc,
la palme revient. La palme revient à Blair Witch Project, où dans le premier Blair Witch, ils ont vraiment communiqué sur la mort des acteurs, en fait. Non.
Ça faisait partie de la promo.
C'est drôle.
Ça faisait partie de la promo de dire bah tiens, ces trois acteurs, on n'a plus de nouvelles d'eux, on pense qu'ils sont morts, etc. Oh mon dieu, on a découvert le film, regardez-le. Enfin, et,
comme le film en lui-même n'était pas top, quoi.
Débat. Tu lances un débat, Rémi. Je me disais aussi, tiens.
Tu es sûr.
Je me disais aussi pourquoi on n'a pas fait de podcast tous les deux, hein.
C'est vrai. Il y a un temps que je me demandais par rapport à ça, c'est tu peux avoir ceux qui montent de toutes pièces une sorte d'ambiance commerciale, et après, est-ce que t'as pas un effet psychologique aussi où tu te dis, comme c'est un film d'horreur, on va aller regarder les trucs un peu bizarres, mais en fait, sur tous les tournages. Des trucs bizarres.
Oui.
Si on prend Don Quichotte, voilà, Terry Gilliams, bon, il a réussi à le faire finalement, mais on aurait pu dire le film maudit, etc. Ça aurait été un film d'horreur, ça aurait été l'énorme construction pour un film d'horreur. Sauf que comme ça n'en est pas du tout un, bon, ben on a parlé.
On de la même façon,
C'est tellement énorme ce qui arrive à force qu'évidemment on en a quand même parlé, mais le retentissement, peut-être que là on va le chercher.
C'est un peu comme le biais cognitif des gens qui ont un complot en tête et qui vont chercher les preuves pour étayer leur.
Si tu cherches, tu vas forcément trouver, effectivement.
Exactement, ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme idée. Bien,
merci. Bah... merci.
je peux dire un truc juste, vous me couperez si vous voulez, mais c'est le public qui parle. Tu disais, les films d'horreur, il n'y a pas forcément d'intérêt à regarder le scénario, ou alors tu ne regardes pas beaucoup, etc. Mais en fait, il y a énormément de messages politiques dans beaucoup de.
C'est vrai, mais oui, j'ai vu Us récemment, oui, c'est vrai que. Ouais.
Et typiquement, je pensais à Massacre à la tronçonneuse, mais c'est clairement une dénonciation de l'Amérique d'après-guerre qui devient folle, en fait, et de ces mecs qui assassinent, qui deviennent. Les serial killers sont nés à une période, en fait. Ça n'a pas toujours. Enfin, je veux dire, l'excès d'attention sur les serial killers aux États-Unis, c'est un truc qui est vrai. Et qui est un phénomène de société, tu vois. Et c'est des choses qui sont dénoncées. Et t'as aussi pas mal de choses dans les films d'horreur où tu t'aperçois que les femmes vierges ne meurent pas. Mmh. Et ça aussi, c'est un espèce de message ultra...
Ce qu'on appelle la final girl.
Voilà,
comme dans Halloween.
Je pense qu'il faudrait qu'on inaugure une chronique pour le féminisme, vraiment...
Désolée.
Non, c'était pas... C'était pas...
Mais, ouais. Non, pour dire que le... Juste pour dire...
Ah, peut-être, j'ai oublié. Je sais plus si elle couchait avec quelqu'un, Jimmy Curtis dans Halloween.
Dans Halloween, non.
C'est dans Scream, donc la.
Oui, c'est vrai, c'est dans Scream que perd sa virginité. Et,
d'accord.
On va pas divulgâcher.
Mais oui, en fait, il y a beaucoup de messages en fait dans les films d'horreur, et c'est vraiment un genre de cinéma à part, mais qui est extrêmement intéressant, et notamment pour tout ce que tu as dit, Chris, les techniques aussi, les techniques de réalisation, les techniques de son, les techniques d'image. Qui t'amène en fait à devenir un spectateur recroquevillé sur toi-même alors que t'es juste venu au cinéma pour pour trouver quelque chose de nouveau, certes, mais là tu flippes de ouf.
Tu passes de spectateur limite à participant, en fait. C'est ça, c'est quand on est là, c'est que c'est vraiment bien amené,
c'est
que
hyper fort,
les mecs ont vraiment fait leur.
Je voudrais un peu rebondir sur les comment ça s'appelle, j'ai oublié, quand tu sursautes, les jumpscares. Les 5 dernières années, il y a un film d'horreur qui m'a marqué, c'est It Follows. Et là, je trouve que l'utilisation du jumpscare est... Enfin, il y a quand même des jumpscares dans ce film, mais qui sont très bien faits, en fait. Qui sont pas gratuits, et voilà. Je dis qu'il faut pas non plus jeter à la poubelle
le jumpscare. Il y a le bon et il y a le mauvais jumpscare. Hein.
Voilà, hein. Le bon jumpscare, il te saute à la gueule, et le mauvais, il te saute à la gueule.
Hein. C'est pas pareil. C'est
bien, bah écoutez, c'était très intéressant, en tout cas. Et là, on va passer à une ambiance totalement différente. Pour le coup, c'est un film des années 50, un classique du cinéma. Comment ça ?
Tu te trompes à chaque fois de film, en fait. C'est je te parle du remake, en fait.
Ah, c'est drôle. Ok, très bien. Bon, alors,
mais tu peux introduire le salaire de la peur.
Ils ne seront jamais d'accord, tous les deux.
Alors, je l'introduis, le salaire de la peur.
T'es sûr que c'est le salaire
Vas-y, Agathe.
Alors, moi, en fait, j'ai choisi...
Américain.
j'ai choisi de parler de ce film parce qu'on trouve si souvent le mot peur dans les titres de films qu'à la fin, voilà, ça désigne surtout des mauvais films d'horreur, voire des parodies. Voici une liste non exhaustive de ces films. Voyage au pays de la peur. Peur dans la ville. Opération peur. Le ministère de la peur. Les trois visages de la peur. La somme de toutes les peurs. Le sous-sol de la peur. Peur bleue. L'ombre de la peur. Et même la cité de la peur. Et en fait, à mon humble avis, le seul film qui porte bien le titre à mes yeux, qui vraiment porte le mot peur, c'est donc le salaire de la peur. Tu avais raison sur ma première partie. D'Henri Georges Clouzot, sorti en 1953, qui a obtenu la Palme d'Or. Et le film dont je vais vous parler, qui est un remake de ce film par Wyatt Friedkin en 1977. C'est important de comparer ces deux, enfin de voir ces deux époques assez différentes. Donc on est en 1953, il y a une utilisation du noir et blanc, alors qu'en 1977, il y a une utilisation du son un peu plus poussé et de la lumière et des couleurs. Donc pour les besoins de cette chronique, j'ai décidé de voir le remake, Sorcerer, parce que c'est vrai que le salaire de la peur, si vous voulez en entendre parler, il y a des millions, voire des milliers de critiques cinéma qui en parlent. Donc je vais vous dresser le tableau. On a une première heure où on découvre quatre personnages aux coins du monde, au gré de leurs aventures. Ces quatre personnages les quatre personnages ont tous les quatre besoin de fuir et de se réfugier dans la jungle, qui est vraiment représentée comme une prison verte et moite. On a Kassem, le terroriste palestinien, qui a besoin de se faire oublier des services du Mossad. Serrano, un joueur en bourse Frenchie, qui a tout perdu en magouillant dans l'entreprise de sa femme. Jackie, Le bandit recherché qui en fait, un peu malgré lui, a participé à la mort de plusieurs personnes. Et ensuite Nilo, l'homme en blanc dont on ne sait rien. Je vous passe le premier extrait. Ce que vous venez d'entendre, c'est la musique de Tangerine Dream qui donne au film des grands moments de tension et de peur. Donc c'est vraiment cette musique qui installe les personnes dans la peur, dans cette jungle, dans cette prison. En fait, ce film, c'est vraiment... C'est toute une atmosphère. Hein. C'est seul contre tous, seul contre le temps, seul contre les éléments. La peur de l'autre, la peur de l'avenir, peur de la nature. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je reste? C'est vraiment des questions... je reprends un peu le synopsis de base. Donc, en fait, ils doivent transférer de la nitroglycérine d'un point A à un point B, sachant qu'à la moindre secousse, la nitro peut exploser, en fait.
C'est très instable, oui.
Voilà, c'est très instable. Et dans le premier film, tu dois traverser une sorte de désert avec plein de montagnes. Et donc, dans le second film, tu traverses une jungle où tu n'as aucune route, quoi. Donc voilà, ce que j'ai trouvé avec la grande différence avec l'original, en plus de la musique, voilà, c'est vraiment les couleurs magnifiques. On a des jeux de lumière avec la torche, on a des jeux de lumière avec la pluie. Donc on passe du grand soleil à la pluie, on va dire bleutée. Parce que c'est vrai qu'entre 1953 et 1977, on a eu le choc pétrolier. Là où dans le premier film, le pétrole coulait à flot, ici, on est plutôt dans la raréfaction, quoi. On va chercher le pétrole parce qu'on sait que c'est quelque chose de vital à l'économie, que c'est vital pour le monde. Il y a aussi un aspect mondialisation, hein. La première heure du film, on voit les personnages à Paris, on les voit aux États-Unis, on les voit en Amérique latine, on le voit au Moyen-Orient. En 1953 et 1977, ouais, on a eu, à part le choc pétrolier, on a aussi les attentats de Munich qui ont un peu plongé le monde dans une sorte de torpeur de tout ce qui est le terrorisme, etc. Il y a aussi le putsch de Pinochet qui parle de la peur en tant que peur étatique. En parallèle de Kassem, le terroriste dont le but est de renverser un État par la peur, les protagonistes sont dans la jungle, dans un pays imaginaire où on trouve vraiment les signes visuels de dictature. Ou d'une multinationale qui sont complices de la domination par la peur aussi. Donc non seulement il y a la peur qu'on a en nous, mais il y a aussi toute la peur, la peur des autres est aussi mise en scène par ces sortes de dictatures, de multinationales. Et c'est vrai que là aussi, où il y avait un petit sous-entendu homo-érotique dans le premier film, hein, on pense au petit Marcel taché de goudron d'Yves Montand. Là, on a... Ouais, Emma approuve. On a ici des habits vraiment trempés de saleté, de sueur. Enfin, plus le film avance, plus ils sont sales. Enfin, ça me fait penser aussi dans un peu plus grand public, Jurassic Park, où à la fin, les enfants, ils sont, enfin, les habits sont complètement couverts de boue, déchirés, etc.
Gros sous les seins.
Dans quel film, Bruce Willis? Piège de cristal.
Ouais. Marcel, il est blanc, à la fin, il est mort.
Le Marcel blanc au cinéma. Le personnage de Nilo, homme élégant de blanc avec lunettes de soleil au début du film, subit la pire dégradation. L'homme craint de tous nous inspire la peur par son silence et son charisme envoûtant. Que fait-il ici? Lequel des trois est-il venu tuer? Et c'est la peur de mourir lui aussi, seul dans la jungle, qui lui ôta toute son angoisse. Et qui pourtant, cette peur était sa seule protection. La peur qu'il faisait inspirer aux autres étant sa seule protection, c'est la jungle qui va lui retirer en le... Vraiment le réduisant à rien, quoi. Enfin, en...
Une dose d'humilité, ouais.
Ouais, ouais, non, mais... Enfin, et du coup, enfin, c'est... Enfin, ce gars qui nous fait peur au début, finalement, il devient ridicule, il devient pathétique en devenant un... Enfin, le mec, il vient avec ses habits de ville dans la jungle et il se fait complètement... complètement...
Bah, par l'environnement.
Ouais. Exactement.
T'as une peur... T'as la peur civilisée, t'as la peur... Enfin, qu'on connaît, celle de l'humain dans sa civilisation, dans sa ville, et puis t'as la peur de l'inconnu dans la jungle.
Exactement.
C'est pas c'est... la même, et t'en as une qui est supérieure à l'autre, finalement.
C'est ça, c'est une sorte, ouais, il y a une sorte de combat entre les deux, enfin, de mise en perspective. Enfin, ce film est assez fou.
Et j'ai une question.
Oui.
Pourquoi il s'appelle Sorcerer, le film?
Je me suis posé la question aussi. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais je pense qu'il y a. Je pense que c'est un mystère du film, en fait. C'est vrai que la version française a repris le mot peur, le convoi de la peur, et le titre. Enfin, il y a une scène dans le film où tu peux penser qu'il y a une sorte de chamanisme, de.
Il y a un mysticisme peut-être. Hein,
oui, à la fin du film, il y a un mysticisme. Pourquoi le final boy, on va appeler comme ça, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui arrive à la fin? Et je pense que c'est parce qu'il s'est un peu parce qu'il allait au bout de lui-même, en fait. Je pense qu'il a un peu été sorcier dans le sens où il allait au bout de sa peur. Il s'est transcendé, en fait.
Il s'est ouvert aux forces extérieures.
Ouais, il a complètement oublié tout son passé. Les autres avaient vraiment un lien avec le passé assez fort. Il y en a un, il était à fond sur l'État israélien, enfin la haine de l'État israélien. L'autre était toujours amoureux de sa femme. Et le dernier, celui qui avait les lunettes de soleil et le costume de ville, il était encore accroché à son passé de tueur, d'ancien tueur clinquant, quoi. Et c'est vraiment lui qui en fait, a mis... s'est retrouvé face à lui-même, en fait. C'est assez fou. J'en parle tout de suite. Excuse-moi, je t'écoute.
Non, c'est toi, chronique. Mais c'est juste que ce fait de se retrouver à soi, le fait de se dépasser ainsi, moi, ça me faisait penser à l'alchimiste. Et pour le coup, juste avec ce titre-là, l'alchimiste et sorcereur, ça fait un peu sens.
C'est vrai,
parce que
c'est vrai.
La magie est juste la science qu'on ne peut pas expliquer pour le moment. Ouais. Et là, je ne sais pas si c'est moi qui va fabule et il trouve un lien ou je vais en trouver un, mais...
Non, t'as The Witcher aussi.
Donc voilà, c'est fini.
Ouais, donc du coup, le Final Ball, c'est le personnage de Jackie, petit bandit minable, qui affrontera sa peur seule jusqu'au bout, dans un voyage vraiment au bout de l'enfer, quoi. C'est la lumière qui rétrécit sur lui et on comprend que par rapport aux autres, il veut seulement vivre sa vie, quoi. Les autres, en fait, ont un poids qui a fait qu'ils sont morts, et lui, tu sens que c'est... Il veut s'en débarrasser, quoi. On se rend compte aussi, toutes les violences dans la première partie hantent pour toujours le héros, et que justement, Sorcerer, c'est... Il y a un peu, oui, cette façon d'exorciser. Il faut savoir que William Friedkin, voilà, c'est le réalisateur d'Exorciste, c'est le réalisateur de French Connection, donc Roy Schneider qui est l'acteur dans les deux. Et je pense qu'il y a aussi une continuité par rapport au thème qu'il a abordé dans ses deux précédents films. On ne voit pas de grandes explosions dans ce film, mais il y a une scène sublime qu'il a traversée du pont. Donc voilà, ils sont avec un camion rempli de nitroglycérine et il faut qu'ils traversent un pont qui tangue. Le fossoyeur de film, j'en parle, on parle dans sa série, Film Wars, parce que le tournage a été vraiment chaotique. Et enfin, le pire dans tout ça, enfin, j'essaie de réhabiliter le film parce que ça a été un échec critique et commercial parce qu'il est sorti juste une semaine avant Star Wars, le premier. Ouais, ça fait vraiment mal de la part d'un réalisateur, enfin, qui, en fait, c'est ce film-là qui a un peu précipité la fin de l'état de grâce de William Friedkin, qui après, en fait, a eu du mal à se relever de cet échec. Et enfin, l'un de mes regrets, c'est pas avoir vu ce film au cinéma lors de sa ressortie et remasterisation. Donc voilà, je vous invite à voir ce film. Puis c'était aussi, enfin, le fait de parler de Salaire de la peur, c'est que c'est deux films différents, deux approches différentes de la peur, sachant que voilà, c'est deux époques différentes. Et dans le premier, à mon avis, avec Yves Montand, je pense que c'était pas la peur de cette façon-là, quoi. Non,
c'était plus du suspense.
Ouais.
C'était plus est-ce qu'ils vont réussir à passer, en fait, je trouve, plutôt que la vraie peur, enfin...
Je pense qu'il y avait la peur aussi, dans le sens maîtriser sa peur, parce qu'on voit la fin, ouais. Yves Montand, finalement...
Non, mais il a vraiment... Enfin, il est angoissé.
Ouais, ouais.
Il joue sa vie.
Bah, c'est de la nitro, ouais.
Mais je veux dire, à la fin... Enfin, la différence, c'est qu'à la fin du film, le personnage de Jackie, il a toujours peur, alors que le personnage Yves Montand n'a plus peur. Et c'est parce qu'il n'a plus peur qu'il fait des... enfin, je dis vulgaché, qu'il connaît sa fin, voilà.
Ouais. Non, c'est assez fou. Et j'ai pas parlé de Shorty depuis longtemps.
Ça va, tu te sens bien?
Et donc je vais le faire. Mais c'est sur ces sujets-là. C'est en fait c'est marrant parce qu'en commençant l'épisode, je pensais que vous alliez parler beaucoup de films d'horreur. Mais en fait, le film d'Agathe, il est un peu sur la peur des autres, la peur de soi, la peur qu'on a en nous en fait, et oui. Pas celle qui est provoquée par des éléments extra-naturels. Et ça me fait penser à Predator aussi. Parce que dans Predator...
Il y a aussi le thème de la jungle.
Voilà, ouais. Et le grand Schwarzy qui repasse à l'état de nature, en fait.
C'est ça.
Pour vaincre son ennemi. Et c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'avec toutes ses armes, au début, il n'arrive pas à le vaincre. Par contre, en se couvrant de boue et en faisant des cris de guerre ancestraux, ça marche.
Retrouver son état primal.
La sueur sur l'uniforme, quoi.
Ouais, et puis non, mais surtout, oser passer à poil, en fait. Il est à poil face au Predator. C'est quand même un courage immense. Et il a vaincu sa peur de manière assez magistrale, quoi.
Et ouais, moi, ça me fait penser à Apocalypse Now, exactement dans ce style.
C'est vrai aussi.
Où ils ont peur dans l'inconnu. C'est adapté d'un bouquin de Joseph Conrad qui date du 19e siècle, qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est en fait, les personnages vont vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas et finissent au fur et à mesure de l'histoire à devenir de plus en plus fous, de plus en plus bizarres, etc. À la fin de Apocalypse Now, c'est Marlon Brando qui a un côté un peu mystique, etc., qui se met à voilà, perdre la tête et ça représente un peu le retour à l'état sauvage, quoi. Voilà.
Sans transition,
on va passer à un film qui n'a rien à voir, encore une fois, mais on revient à l'horreur.
Un peu quand même,
oui, c'est vrai. Alors pour le coup, là, je me suis trompé avec le remake tout à l'heure, là, il y a 10 000 remakes pour The Ring, donc je vais te laisser le présenter.
Du coup, The Ring est un remake, et donc le film dont je vais parler est Ring.
Ah donc, l'original.
Ringu.
Alors moi, je me disais qu'au début, c'était un choix qui manquait un peu d'originalité de parler de Ring, mais bon, finalement,
mais on revient à la base. Thème, hein.
C'est plutôt complexe pour moi de parler de la peur de manière générale, parce que j'y ai toujours été imperméable au cinéma. Je suis une statue de pierre devant les jumpscares, ça marche pas, je sais pas, ça fonctionne pas. Donc j'en ai pas vu énormément, mais Ring, ça a fonctionné. Je suppose que le fait d'avoir regardé le journal télévisé depuis que je suis tout petit, ça m'a imperméabilisé à l'horreur, à la télé, voilà. Un jour j'ai vu Ring et tac, ça a marché. Donc Ring, c'est un film japonais de Hideo Nakata, sorti en 1998 et qui a fait l'objet d'un remake américain, The Ring, dont je pourrais dont je vais en parler avec une brièveté, je pense égale à l'intérêt que j'ai trouvé. Donc The Ring s'appelle Le Cercle en français. Voilà. On va passer à la suite. Hein. Donc il y a un second remake, qui d'ailleurs était le premier chronologiquement parlant, coréen, qui a été réalisé par Kim Dong-bin en 1999, Ring Virus. Et il y en a eu tout un paquet. Et alors, Ring, c'est vraiment une grande famille, hein. c'est la famille nombreuse du cinéma d'horreur, quoique depuis. Il y a quand même pas mal d'autres, Saw, etc., qu'on fait des petits, non ? Mais Ring, donc, c'est une adaptation cinématographique d'un livre, lui-même habilement nommé Ring, qui a été écrit par Koji Suzuki, qui a vu d'autres de ses romans adaptés au cinéma, comme Darkwater.
Ah oui.
Le roman Ring est le premier volet d'une série. Il y a Ring, Spiral, Loop, S, Tide. Peut-être qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, hein, c'est à suivre. Qui poursuivent l'histoire en ajoutant des nouveaux protagonistes, en développant l'intrigue, en essayant de répondre aux questions qui auront pu être laissées en suspens par Ring, etc. C'est intéressant de noter d'ailleurs que l'adaptation de 1998, donc celle dont je vais parler, n'est pas du tout la plus fidèle du livre. Il y avait une première adaptation, donc chronologiquement parlant, encore antécédente à toute celle, voilà, du livre, qui a été réalisée en 1995, mais qui n'a jamais franchi les frontières du Japon, donc dont personne n'a jamais entendu parler, sauf là-bas. Je crois qu'une intervention va se réaliser.
Public. J'ai une question. Le livre original s'appelle Ring.
Oui.
C'est-à-dire que c'est japonais le livre original.
Absolument.
Et donc il a volontairement donné un titre anglais à son livre.
Je ne sais pas.
D'accord, ok. Non, c'était une question.
Peut-être que ça lui est arrivé par hasard, peut-être qu'il a, il a pris un truc sur la tête et. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Après, c'est peut-être un effet de. Parce que un cercle en japonais, c'est quoi? C'est Maru. Peut-être qu'il voulait l'effet américain du. Enfin, tu sais, du... Je sais pas.
Ouais, c'est quand même un mot plus court.
C'est plus classe, quoi.
Et puis, donc, en vrai, on le fait, en France, ça arrive tout le temps aussi, des bouquins qui ont des titres anglais, alors que tu vas pas les revoir. Et pas dans tout le film, le truc, il est, enfin, dans tout le livre, il va être écrit en français.
C'est juste un effet de style, en fait.
Okay. Et oui, c'est Jazia, je fais partie
du. Ça marche. Le public ne peut pas s'empêcher d'intervenir aujourd'hui.
En tout cas, c'était bien Ringu. En premier nom.
Ok.
La raison qui l'a poussé à ça, malheureusement, je ne la connais pas.
Attends, je l'appelle.
N'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires. Ok. Allez, on va faire un petit peu de divulgachage, hein, comme tout le monde, on va aller sur le synopsis. Donc, le film suit l'histoire d'une journaliste japonaise, Reiko Asakawa, dont la nièce est subitement décédée, à une expression de terreur sur le visage. Après enquête, elle prend connaissance de l'existence d'une mystérieuse cassette vidéo dont le visionnage provoquerait la mort au bout d'une semaine. La personne ayant visionné cette cassette étant informée de cette mort par un appel téléphonique. Ça va, ils sont bien urbains quand même. Après avoir visionné la cassette, la journaliste reçoit le coup de fil. Elle se lance alors à la recherche de la vérité avec l'aide de son ex-mari. Parce que. Cherchant à décrypter les images de la vidéo pour en comprendre l'origine. Et, accessoirement, sauver sa peau.
Erreur fatale.
Extra. Si le film dispose d'une bonne base scénaristique, en mêlant habilement son intrigue à des moments classiques de la vie quotidienne, toute la première partie du film d'ailleurs relèvera quasiment du fait divers. Hein. C'est pas du tout ce qui a marché dans la partie horreur, et ça nous installe plutôt une sorte de banalité avec la tristesse d'une famille éprouvée. L'élément efficace, j'ai trouvé, dans Ring, c'est la musique. Le travail sur la bande-son, c'est vraiment l'élément qui a troublé le grand imperméable du film d'horreur que je suis. C'est une bande-son que nous devons à Kenji Kawai. Voilà, ça ne s'invente pas. Il fait des bandes de films d'horreur. Et il a pu travailler sur des œuvres aussi diverses que Ring, mais également Juliette, je t'aime. Voilà, ça, c'est un homme qui a de multiples talents.
Monsieur Kawaii.
Et extra également. La bande-son. Pour qu'une bande-son fonctionne bien dans le registre de l'épouvante, il faut mettre le cerveau en condition pour que ça marche. Et pour cela, on a plusieurs moyens à notre disposition. On peut travailler dans la composition du morceau, via son rythme, avec notamment les enchaînements de demi-tons, auxquels a eu longtemps recours le journal de TF1, mais je crois que le générique du journal de TF1 a changé, mais comme je ne regarde pas le journal de TF1, je ne sais pas. Donc on vous met l'extrait et on vous laisse y réfléchir. Hein. Pourquoi un journal de télé a besoin d'avoir ce type de mise en condition du cerveau avant de vous délivrer son contenu? Et au-delà de ça, on a également et surtout la recherche de la dissonance. Et la dissonance, elle peut être faite de plusieurs manières. Soit elle va être auditive, on fait entendre des sons inhabituels, on utilise des intervalles musicaux inhabituels, c'est vraiment la conception du son. Ou alors elle peut être associative, on crée un malaise avec un décalage entre le son et l'image, entre le son et le propos, décalage quel qu'il soit. C'est un peu l'histoire du type qui vous engueule en souriant. Si ça vous arrive de temps en temps, enfin, c'est des trucs qu'on ne sait pas trop. La peur, de manière générale, c'est la perte de maîtrise de son environnement. Et ça, on l'a vu pas mal avec les films précédents, où justement, c'est de côté de la peur, parce qu'on va dans l'environnement, dans la jungle notamment, et on perd ce repère. Et là, on a cette peur qui est faite par cette dissonance. Parce que quand on a peur, le cerveau met un certain nombre de services en fonction automatique. Hein, comme ça, il met toutes les ressources sur le danger. Typiquement, c'est aussi à ça que sert le stress. Quand vous avez un type qui vous hurle dessus avec une tête de type qui hurle, voilà, ça va, ça fait peur, hein, mais on sait ce qui va se passer. Donc du coup, on peut le rationaliser, on anticipe, on le traite. Quand vous avez un type qui hurle en souriant, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ce mec il sourit quand il hurle. Donc du coup, là, il y a une dissonance entre le visage du mec et la situation. Et là, ça fait peur, parce que vous n'arrivez pas à la comprendre.
Il y a une tronçonneuse. Hein.
Si je peux ramener ma culture, c'est un concept freudien.
Mais Rémi, je t'en prie, ramène ta culture, c'est toujours un plaisir.
C'est un concept freudien qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, Unheimlicht, en allemand, je l'ai regardé.
Bam, dans ta culture.
Et en fait, c'est
culture
en...
dans ta face.
Pèse.
Unheimlich, si tu traduis littéralement, c'est en dehors de la maison, et c'est quelque chose qui voilà fait pas partie de ton quotidien. C'est quelque chose de trop bizarre pour que tu puisses le voilà, étrangeté exactement. Voilà, je te laisse.
Merci pour cet habile complément.
Oh, on a un public de folie. Hein.
C'est l'animateur. C'est...
Et dans Ring, c'est une dissonance qui s'appuie du coup principalement sur l'emploi de la bande son, qui est plus projetée sur l'ambiance sonore que sur la mélodie. Mm-hmm. On va avoir un énorme recours aux effets de son, il y a un travail de sound design qui est très très bien réalisé, avec des grincements, des recours aux instruments à cordes. Les instruments à cordes, ça marche très très bien parce que c'est un son aigu, c'est un son qu'on n'a pas forcément, exactement, strident, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, d'autant plus en Occident. Il y a aussi tout un décalage qu'on peut avoir en tant que... je parle des instruments, des sonorités, des instruments d'Extrême-Orient sont pas les mêmes que celles qu'on a l'habitude, que nous on peut avoir en Occident. Et donc du coup ça ajoute finalement à ce décalage, puisque toutes ces ambiances là, même si elles sont peut-être classiques du côté du Japon, bah, nous c'est proche, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude. Donc du coup ça marche plutôt bien aussi. Quatrième extrait.
Tu veux dire qu'au Japon ils ont pas peur par exemple?
Je veux dire qu'au Japon, il est possible que l'effet de la bande-son soit atténué parce que les sonorités qu'on va y entendre sont des sonorités habituelles qu'on peut avoir dans la musique folklorique, la musique locale, alors qu'on ne va pas forcément la voir dans d'autres pays du globe.
Et il y a aussi tout un rapport avec la mort, parce qu'en Occident, pour nous, la mort, c'est tout de suite quelque chose de négatif, alors qu'au Japon, et même aussi en Amérique latine, c'est des endroits où on n'a pas un rapport à la mort qui est toujours négatif. Et parfois, les morts, ça peut être aussi des éléments...
Oui, des présences sympathiques.
Mais c'est juste pour dire que, effectivement, entre l'Occident et l'Orient, on n'a pas les mêmes points de repère, en fait.
Voilà, grâce à Catharsis, nous aurons donc conclu que partout, tout le monde, partout, ne vit pas de la
même manière. On est multiculturel.
On est malin chez Catharsis.
Habile.
Voilà, c'était toute la force et la puissance de notre propos. Pour en revenir à Ring... un point justement qui marche assez bien là-dessus, c'est la bande-son, toujours, qui se fait plus présente au fur et à mesure qu'on avance dans le film. On va basculer de cette banalité du fait divers, triste, mais du fait divers quand même, vers une ambiance beaucoup plus horrifique. On est plutôt sur un mode d'enquête dans Ring, hein, par rapport au convoi de la peur, par rapport à Insidious, où on a des structures qui sont différentes. Là, on pourrait au début se dire, ok, on est sur une sorte de film un peu policier, un peu tranche de vie, et puis on bascule sur le fantastique, et ce fantastique est vraiment amené par la bande-son.
Ce qui est pas mal là, dans notre film, c'est que du coup, en fait, la peur est caractérisée par le silence dans le film de Chris. Moi, la peur, c'est une musique en fait, d'ambiance. Mm. Une musique, non, d'atmosphère plutôt. C'est vraiment de l'atmosphère, une musique d'un groupe assez psychédélique. Et toi, en fait, c'est plutôt une ambiance sonore, des petits bruits par-ci, par-là. La peur est construite d'une autre façon encore, c'est grâce ça, à
sachant
la...
Sachant que, du coup, dans la bande-son, le silence... Enfin, peut-être utilisé aussi à certains moments. C'est,
oui, ce que tu disais, c'est au début il y a du silence, puis après t'as de plus en plus de son, c'est ça? T'as une mise en tension avec le son.
C'est pas forcément qu'il y en a plus. C'est que l'ambiance musicale va changer au fur et à mesure.
Insidieusement.
Habile. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était quelque chose qui fonctionnait très bien parce que on est de manière générale, les êtres humains sont des aujourd'hui en tout cas, peut-être que c'était différent dans le passé, mais on est des êtres qui expérimentons et comprenons notre environnement principalement par la vue. Il y a 5 sens, ou même beaucoup plus d'ailleurs, 5 sens principaux, l'approche aristotélicienne de la chose. On en a
vraiment
beaucoup
un podcast
plus.
Culturel aujourd'hui.
T'as vu? Mes points au Scrabble dans cette réplique. Et donc du coup, on a quand même beaucoup tendance à imaginer les choses par la vue. Et dans l'horreur, dans la peur, ça marche beaucoup mieux de ne pas montrer les choses, de laisser les personnes imaginer ce qui va être, parce que généralement elles vont imaginer ce qui est le pire pour elles, ce qui leur fait le plus peur, et donc en laissant finalement la place à la suggestion. Et là du coup c'est quelque chose qui peut être amené aussi par le son. On n'a pas quelque chose forcément à l'image, mais on va entendre qu'il y a quelque chose, et du coup le cerveau va se mettre à mouliner derrière, mais quel est donc ce bruit de pas que j'entends au bout du couloir? Je pensais pourtant que j'étais seul dans cette maison, qu'est-ce qu'il se passe? Et là, jumpscare, mais ça c'est le mauvais film d'horreur. Mais c'est quelque chose qui peut aussi bien marcher de ce côté-là, et en tout cas dans Ring, j'ai trouvé que c'était plutôt bien utilisé. Donc Ring aurait été pour moi la révélation, hein, en matière de film d'horreur, et surtout une révélation comme quoi ce n'était pas cantonné à de l'hémoglobine, de la charge, de la violence, du jumpscare, et qu'un petit peu de subtilité dans le fond, bah, ça pouvait aussi très très bien marcher.
Confiant.
Mais après, le gore, l'horreur, l'épouvante, le cinéma d'horreur, il est extrêmement varié, en fait.
Oui.
Donc,
il y a plusieurs formes.
Il y a plusieurs formes, ouais.
Après, tout dépend où tu passes l'horreur. Par exemple, les gens qui sont vraiment effrayés, révulsés par le gore. Mm-hmm. Et par exemple, moi, j'en ai juste rien à faire, en fait.
Oui, alors que moi, devant la colline des yeux, juste, je m'en fous en courant.
Ah, alors que j'en ai toujours rien à faire, en fait.
Ouais. Enfin, moi, j'ai peur de tous les films, quels qu'ils soient, en fait. Donc,
C'est vraiment une question de ressenti pour chacun, effectivement. Et...
Mm. Bon, on l'a prouvé avec ce podcast. On a eu trois différentes versions de la peur, finalement.
On a parlé, effectivement.
Mais c'est vrai, enfin, je rebondis sur Ring, que j'ai vu au cinéma. Moi, ce qui me faisait... Pardon ?
La chance.
La classe.
Ah,
la classe,
Cinémathèque, merci. Ah.
Pas pour sa sortie.
Non, pas à sa sortie. Je l'ai vu après à la Cinémathèque. C'est ces moments, en fait. C'est vrai que dans des films américains, en fait, ils sont toujours dans une sorte de... Je sais pas, d'univers où tout est au service de la peur. Alors que, en fait, dans ce film japonais, par exemple, je vois la nana, elle fait la vaisselle. Enfin, tu vois, c'est des petites choses du quotidien ouais. Ce qui fait que tu t'attaches plus à ces personnes. Alors que dans des films américains, tu mets une distance parce que tu ne vis pas la même chose qu'eux, en fait. Enfin, je sais pas si je me comprends.
Tout leur arrive dans la gueule direct, limite, et t'es dans le surnaturel, tu le bouffes, tu le subis.
Voilà, c'est ça.
Alors que, comme tu l'utilisais dans le truc japonais, en fait, t'as d'abord l'installation du quotidien, donc effectivement, tu t'attaches à eux, mais surtout, tu t'y identifier.
Oui.
Et tout d'un coup, t'as l'élément perturbateur qui arrive et qui te désarçonne.
Et les armes dont se sert l'héroïne pour combattre cette peur, c'est vraiment des armes du quotidien, en fait. Et ça aussi, ça me fait limite plus peur que le gars qui va sortir le lance-flamme dans un film américain. Voilà.
C'est chance, il y a une scène qui est dans The Ring, donc le remake américain, que je dois avouer, j'avais regardé d'un œil distrait, étant donné que...
C'est pas avec ça, Michel Gellar
si.
Non, ça m'avait coupé.
C'est Grudge.
C'est Grudge, pardon.
Naomi Watts, je pense.
Ah, Naomi Watts.
Alors, moins que ce soit Darkwater, Naomi Watts.
Non, c'est pas Jennifer Connelly, Darkwater.
Non, Darkwater, c'est que des japonais.
Je sais pas, c'est pour ça que je pose la question.
Ah, il y a un remake.
Ouais, il y a un remake.
Ah, en tout cas, le japonais est excellent.
Oui. Désolé, vas-y.
Non, c'est
qui parlait, c'est ça.
Et en fait, dans The Ring, il y a une scène avec des chevaux. Il y a une folle charge de chevaux. Et c'est vraiment le bruit et la fureur. Et en fait, pourquoi ? Enfin, c'est juste vraiment pourquoi, en fait. Quand tu regardes Ring de base, il y a des moments de tension, des moments de suspense, il y a des moments d'horreur, mais il n'y a pas de moment de violence, même si ce n'est pas de la violence contre un être humain au sens I dare you, motherfucker. Mais c'est voilà, là il fallait qu'il y ait de la puissance, il fallait que ça envoie.
Il
des chevaux, quoi.
Je me rappelle plus.
Il restait du budget.
Ouais, je me rappelle plus de ce passage.
Mais c'est normal, en fait, que tu l'aies oublié. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Il n'apporte rien au film.
Les chevaux en effet spéciaux. Enfin,
en plus, il est en CGI.
C'est très très laid.
CGI.
Et ce truc-là est juste gratuitement, c'est une sorte d'interlude.
Tu vois,
on parlait de gap entre les Européens et les Japonais, mais il y a aussi ce gap entre les Américains et les Européens.
Je pense qu'il y a des gaps entre toutes les cultures, de toute façon.
Mais en termes de films d'horreur.
C'est vrai que c'est peut-être une scène qui a été rajoutée pour plaire, en se disant si on fait que un truc sur le psyché, l'ambiance, les légendes, le folklore,
si c'est trop subtil, ils vont peut-être pas.
Ring à la base, c'est quand même très ancré dans le folklore japonais. Ça va pas marcher. Des gens qui ont juste peur parce qu'ils regardent une vidéo à la télé. Il faut un peu de monstre, quoi. Il faut un peu de trucs qui claquent.
Fallait parler aux cowboys, quoi.
Non, mais la différence entre The Grudge version américaine, The Grudge version japonaise, est vraiment pareil. On est sur les mêmes décalages. En fait.
Alors moi, faut m'expliquer Grudge, Ring.
La différence entre tous ces films-là.
Oui, parce que, moi, je pensais que tu me parlais du film avec Sarah Michelle Gellar, donc Buffy pour les intimes.
Non, ça c'est The Grudge.
C'est The Grudge. La version...
Et donc Naomi Watts, c'est Ring. C'est
la version américaine, oui.
Non, c'est The Ring.
C'est The Ring. D'accord.
The Ring, du coup.
Ok.
Mais bon, on parle pas de The Grudge, mais par contre, le remake américain de The Grudge est intéressant pour un point, c'est que The Ring, donc le remake américain de Ring, se passe aux États-Unis, ça ? Ou il se passe au Japon ?
The Ring se passe aux États-Unis.
Voilà. Alors que le remake de The Grudge se passe au Japon. Japon ouais. Et en fait, je trouve que The Grudge US fonctionne parce que on est sur des Américains dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une culture différente, et la peur, elle va être accentuée par ça. C'est que les personnages, surtout le personnage du coup de la mère, qui est joué par Sarah Michelle Gellar, elle est seule, et mais elles sont aussi isolées par son emplacement géographique. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est le truc malin qu'ils ont fait avec ce film, c'est vraiment de garder l'action au Japon. Mais on parle pas de ce crush, donc je sais pas pourquoi j'ai décidé de
décider. On est dans le thème. On a bien parlé d'une cité tout à l'heure. On est dans le thème.
Parce que le décalage est aussi grand entre The Grudge version américaine et version japonaise que entre The Ring et Ring.
Je pensais qu'il y avait un lien entre les deux en fait.
Entre
The Grudge et The Ring.
C'est le grand décalage comme ça. Et franchement, pour moi, c'est. C'est la différence entre le folklore japonais et l'américain qui se réapproprie ça et qui rajoute des jumpscares, qui rajoute des choses visibles. Et c'était une question que j'avais aussi sur Ringu, parce que Ringu, je ne l'ai pas vu en version japonaise, j'ai juste vu des extraits. Mais est-ce qu'au début, on voit la nièce, la tête de la nièce qui est morte ou pas?
Ah, bien sûr, oui. Il y a toute une scène en fait, d'ouverture. C'est la nièce et une de ses amies qui regardent une vidéo, vidéos pour se faire peur, qui se font des jeux pour se faire peur, et qui regardent la fameuse vidéo, et qui sont toutes les deux dans un chalet, et puis le coup de fil arrive. Et là, on a aussi une scène où on a deux adolescentes qui jouent à se faire peur, et ce qui devait se passer, qui devait être un jeu, se passe réellement. Okay. Et là, elle passe de la même manière, en fait. On a un condensé un peu du film sur cette première scène. On a la scène banale de la vie quotidienne, qui bascule vers le côté horreur, où on est justement sur quelque chose de très classique. Et l'événement qui n'aurait jamais dû arriver, le coup de fil, elles le reçoivent. Et elle meurt.
Mais on voit sa tête quand elle est morte.
On voit l'horreur. On voit l'horreur arriver sur le visage et on voit juste l'horreur arriver sur le visage. On ne sait pas pourquoi elle est morte d'ailleurs. Il y a une raison dans le film évidemment qui fait
qu'elle est morte. Parce que la version américaine, c'est aussi un jumpscare à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la mère qui découvre sa fille morte en ouvrant une porte. Et bim, on a le visage absolument dégueulasse. Voilà.
Non, oui, on la voit se figer en fait. Il y a la peur, mais on la voit se figer. Alors après, on peut dire qu'elle est morte ou. Là, j'ai plus le souvenir exact de la fin de la scène. En tout cas, elle est morte de l'intérieur, clairement. Mais ça, c'était peut-être avant, je ne sais pas, je ne la connais pas.
Il me semblait qu'on voyait l'une des têtes des victimes, minimum, au moins une tête des victimes dans le Ringu, je veux dire. Et c'est très bref, et c'est tellement bref en fait que c'est plus marquant.
Oui, c'est vrai.
C'est ce que je crois me rappeler en tout cas.
Et je m'interroge sur un autre truc aussi, c'est dans les versions japonaises, justement, le rapport à la mort est différent, etc. Donc l'héroïne, elle va aller essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé et essayer d'aider en fait l'âme en peine dans ce film-là. Est-ce que, je sais pas si on a des films côté européen, côté occidentaux, qui sont dans le même délire, parce qu'en général, dans les films d'horreur, on est plutôt à combattre le mal.
Le sixième sens, je pense.
Plutôt qu'à aller filer un coup de main.
Ouais, de Shyamalan.
Le sixième sens,
ça rentre bien dedans.
Mais potentiellement le sixième sens.
Après, tu vois, Shyamalan, c'est quelqu'un qui a une culture indienne.
Ouais.
Il y a aussi, je pense qu'il y a un peu de ça qui transmet dans le sixième sens. Il y a un côté de rapport aux morts, aux fantômes, qui est différent d'un américain.
Parce qu'on est plutôt dans le combat, normalement, c'est-à-dire qu'on combat le surnaturel, on doit survivre, etc. Mmh. Là, on est plutôt dans la compréhension, dans la compassion,
dans l'acceptation.
Dans la cohabitation, oui. Exactement. Donc t'as aussi cette différence culturelle là qui est intéressante dans les films japonais. Dark Water est un peu sur le même principe. Il est excellent, Dark Water. J'ai eu très très peur.
Le message est passé.
Et c'est ainsi qu'on arrive au bout à ce podcast très culturel. On a un niveau intellectuel très élevé, visiblement.
Ça va pas être tout le temps.
Ouais, je suis fier de nous, je trouve que vraiment on a des débats très intéressants.
Nous passons à des chiffres et des lettres dans 2 semaines.
Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Sens du poil.
Exactement.
Oui, ce débat était une qualité exceptionnelle.
On s'applaudit.
Comme disait Nietzsche.
On se lance des fleurs. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et au prochain épisode, on sera plus dans la déconne. Ça veut dire on a commencé avec le Mobit. Hein.
Oui, mais ça a été coupé.
Bon, allez, ciao, bonsoir.
Salut. Ça l'a coupé.
Ah, tiens, bon, les marches.